Alors, aujourd'hui, j'aimerais développer avec vous un point que nous avons vu ensemble dans l'étude biblique, mercredi soir. Donc, ceux qui étaient là, vous allez tout de suite le situer et comprendre. Donc, on avait lu dans Ésaïe 50 et dans le verset 4, on avait lu en particulier, Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et donc, nous avions parlé de ce que ça veut dire, entre autres, être un disciple. Et aujourd'hui, on va développer cette pensée en regardant la nature, le caractère d'un disciple. Et donc, nous allons lire un passage ensemble dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole nous montre, entre autres, l'importance d'être disciple de Jésus-Christ, car cette parabole se trouve dans une série de déclarations et d'enseignements de la part de Jésus au sujet de la fin des temps et de son retour. Alors, je sais que de nombreuses générations se sont dites être la dernière avant le retour du Seigneur et ont vu le retour du Seigneur comme quelque chose de proche. Et c'est vrai que la Bible nous dit que personne ne sait exactement quand le Seigneur va revenir. Dans Le chapitre précédent, chapitre 24, verset 36, Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne sait, en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 et 10, Pierre écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc personne ne sait exactement quand ça aura lieu, mais la Bible nous donne un avertissement sur la manière de vivre cette inconnu de la date du retour du Seigneur, en Marc 13, versets 34 jusqu'à 36, il est écrit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. » Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc la Bible dit, personne ne sait quand ce retour aura lieu, mais il faut faire attention pour toujours être veillant, pour toujours être prêt, pour que le Seigneur ne nous trouve pas endormis au moment de son retour, moment qu'on ne connaissait pas et donc où on pourrait ne pas être préparé. C'est justement ce que dit Paul aussi en Romains 13, versets 11 et 12, quand il écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes ». C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Donc déjà, à son époque, l'apôtre Paul pouvait dire « La nuit est avancée. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut dans le sens du jour où Jésus va revenir chercher son Église pour être avec lui pour l'éternité. Et c'est certain que les circonstances semblent être en train de se mettre en place quand on regarde le monde dans lequel nous vivons. Les choses qui n'existaient pas avant, mais qui se mettent en place où on peut voir la main de Dieu conduisant l'histoire pour préparer le monde pour le retour du Seigneur Jésus. Lorsqu'on voit à quel point nos sociétés sont devenues globales, mondiales, on n'a plus de difficulté à imaginer que cela pourrait permettre à quelqu'un d'exercer un pouvoir sur de nombreux pays à la fois, puisque nous sommes tous liés les uns avec les autres maintenant. Lorsqu'on sait que la fin de l'histoire se dessinera autour de la question du statut de Jérusalem, il est évident que les événements sont en train de se conduire dans ce sens-là. À commencer, bien évidemment, par l'apparition de cet homme qui prétendra avoir trouvé enfin la solution pour établir la paix au Proche-Orient. Celui qui va dire, qui va prendre finalement le pouvoir en se disant que lui, il a trouvé le moyen pour que le peuple d'Israël et les autres nations autour s'entendent, surtout sur la question de Jérusalem. Mais nous savons que tout cela terminera dans un bain de sang en Israël, Lorsque cet homme-là, ainsi que, nous dit la Bible, l'opinion publique du monde entier, se retourne contre Israël et contre le peuple juif. On n'a plus tellement l'impression de lire des prophéties que de lire des actualités. Et donc, finalement, peu importe si on croit que l'Église partira auprès du Seigneur tout au début de ce processus de 7 ans, des 7 dernières années de l'histoire, ou après 3 ans et demi, ou tout à la fin de ce processus, au moment où Jésus se manifestera comme le sauveur littéral d'Israël et de Jérusalem, pas besoin d'être tous d'accord là-dessus pour comprendre que l'histoire avance, que comme dit Paul, la nuit est avancée et que le jour du Seigneur approche. Nous voyons donc les choses se mettre en place et nous voyons donc le Seigneur qui nous dit de veiller sur nous-mêmes en vue de ce moment-là à cause du principe qu'il explique en Matthieu 12, verset 30, quand il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Il est donc important d'avoir réglé cette question du salut avant ce moment-là, avant que le Seigneur Jésus apparaisse pour apporter le salut, avant que ce moment du salut qui est plus près de nous que lorsque nous avons cru se réalise. Il est important de régler cette question parce que la Bible nous dit, et même dans la suite de ce chapitre, il nous est dit que ce moment-là du salut, au moins pour les uns, sera suivi par le jugement. À commencer par le jugement des nations dans chapitre 25, verset 31, 32, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Et puis plus tard, donc, il y aura le jugement universel de tout être humain de toute l'histoire. Il est donc essentiel, si le Seigneur est sur le point de revenir, de régler cette question. Et la Bible nous dit que le seul moyen de régler cette question, le seul moyen d'être sauvé, de nous assurer le salut ce jour-là, c'est d'être disciple de Jésus-Christ, de choisir de suivre Jésus. Apocalypse 21, verset 27 nous dit « Il n'entrera dans la nouvelle Jérusalem, dans le règne de Dieu, que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ce jour-là, la question essentielle sera de savoir si nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et la Bible nous dit que ceux dont les noms sont inscrits dans ce livre, ce sont ceux qui auront choisi de suivre Jésus-Christ, d'être disciples de Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est donc essentiel de choisir d'être disciple de Jésus-Christ avant ce jour-là pour avoir cette question réglée, puisque, comme dit Jésus, vous ne savez pas quand cela pourrait avoir lieu. Nous avons des indices qui indiquent que, effectivement, si le jour approché à l'époque de l'apôtre Paul et que le salut était plus près que lorsque ils ont cru, c'est d'autant plus le cas maintenant, avec toutes les circonstances qui sont en train de se mettre en place. On devient donc disciple de Jésus en acceptant cet appel que lui, il nous lance de le suivre. Mais si on veut répondre vraiment à cet appel-là, il est aussi important de savoir ce que cela veut dire être disciple de Jésus-Christ. S'il n'y a que les disciples dont le nom est inscrit dans le livre de vie, et s'il n'y a que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui connaîtront le salut au moment où Jésus va revenir. Donc, important de savoir comment être disciple une fois qu'on prend cette décision. La Bible emploie plusieurs titres pour parler des disciples de Jésus. On est très content qu'entre autres, la Bible appelle les disciples de Jésus des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Voyez quel amour le Père nous a démontré en ce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et puis Jean ajoute, ce n'est même pas simplement qu'il nous appelle enfants de Dieu, mais nous le sommes. En Jésus-Christ, nous devenons enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute dans Romains, et si enfant, alors aussi héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. La Bible emploie également le terme de saint pour parler des disciples de Jésus-Christ. Je crois que c'est l'épître aux Romains qui est adressée à ceux qui ont reçu la vocation, l'appel d'être saint. La Bible appelle les disciples également des serviteurs. D'où donc l'intérêt dans cet objectif-là de voir cette parabole dans Matthieu verset 25 qui parle des serviteurs. Et dans 1 Corinthiens 4 verset 1 et 2, la Bible fait là aussi un commentaire sur le caractère essentiel d'un serviteur et donc caractère essentiel d'un disciple de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Une autre traduction met la seule chose demandée à de tels serviteurs, c'est qu'ils soient fidèles envers leur maître. On ne peut rien demander de plus de la part d'un serviteur. Son rôle essentiel, il a bien accompli, bien rempli son rôle s'il est fidèle envers son maître. Intéressant justement dans cette parabole de voir que lorsque ses serviteurs se présentent devant leur maître qui est de retour, ceux qui ont fait la volonté de leur maître entendent de sa part, verset 23 par exemple, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. » Le maître le félicite de ce qu'il a été fidèle dans la tâche que son maître lui avait laissée le temps où il était parti. Dans Ésaïe 50, donc ce passage qu'on a étudié mercredi soir et qui a lancé cette pensée, donc il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Et donc, on s'est posé la question, maître dit « Alors, comment écoute un disciple ?» Qu'est-ce que ça veut dire « écouter comme écoute un disciple » On le trouve dans la suite. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. je ne me suis point retiré en arrière. » Un disciple qui écoute, ça veut dire il écoute ce que dit son maître et il fait ce que dit son maître. Là, le serviteur de l'Éternel qui se révèle être Jésus-Christ ne refuse pas ce que son père, ce que son maître lui demande de faire. Je ne me suis point retiré, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. Donc, si nous voulons être des disciples de Jésus, ce qui normalement est le cas, si on désire être, recevoir de sa part le salut le jour où Jésus reviendra, si nous voulons être disciples, nous savons maintenant que ça veut dire lui être fidèle. Entendre ce qu'il a à nous dire et le faire fidèlement. Dans le but d'entendre justement ce jour-là, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Alors, lorsqu'on parle de notre fidélité au Seigneur, il y a différentes manières d'imaginer notre fidélité. Je dirais la partie la plus facile, au moins au Luxembourg, à notre époque, concerne le choix de suivre le Seigneur, le choix d'appartenir au Seigneur Jésus, le choix de notre foi, de notre religion. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il y a quelques semaines, Jean-Philippe a partagé les thèmes présentés par Portes Ouvertes dans le Dimanche de l'Église persécutée concernant des frères et sœurs dans d'autres endroits au monde où le fait simplement de choisir d'être disciple de Jésus-Christ, choisir de suivre Jésus-Christ, peut mettre sa vie en danger. Nous, au Luxembourg, ce n'est pas le cas. On va peut-être nous considérer un peu bizarre, un peu arriéré, un peu étrange et nous rigoler dessus, mais notre vie n'est pas en danger parce qu'on a choisi le Seigneur. On peut rester fidèle au Seigneur dans ce sens-là sans difficulté. Notre choix donc de venir à la rencontre veut dire qu'on a choisi de se situer dans cette église locale, une église locale qui fait partie du mouvement des Assemblées de Dieu, qui est donc un mouvement pentecôtiste, les pentecôtistes faisant partie du monde des évangéliques, les évangéliques faisant partie du protestantisme, le protestantisme venant dans le courant du christianisme occidental. Et on se dit, j'ai fait le choix d'appartenir au christianisme, j'ai fait le choix dans le christianisme d'appartenir au protestantisme, j'ai fait le choix au sein du protestantisme d'être chez les évangéliques d'être pentecôtiste et d'appartenir donc à une assemblée de Dieu à la rencontre. Mais parfois, ce choix et cette fidélité envers Dieu à travers notre choix de culte peut devenir aussi un piège. Ce choix peut être un voile qui couvre la réalité de notre vie, où on se dit, là au moins on est convaincu d'être dans une église, d'être dans un culte qui est biblique et notre culte, et nos vérités fondamentales des assemblées de Dieu deviennent notre fierté. Et on s'accroche à cela. Ce sont des choses très bonnes à leur place. Mais même si on fait partie de la rencontre dans les assemblées de Dieu, chez les pentecôtistes, on a besoin d'écouter la mise en garde que Dieu donne à son peuple dans l'Ancien Testament. Dans Amos, chapitre 5, entre autres, qui donc nous montre que être fidèle à Dieu, ça va au-delà de simplement choisir un culte qui nous semble être fidèle au texte biblique. Amos chapitre 5, versets 21 à 23. Dieu dit à son peuple, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Pourtant, le peuple d'Israël pouvait se dire, mais nous, parmi tous les peuples du monde, nous sommes les seuls d'avoir un culte conforme à la volonté de Dieu, d'avoir un culte qui répond à ce que Dieu a confié à Moïse, à ses prophètes, et nous a demandé de faire. Et pourtant, Dieu qui dit, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Si on retourne dans le livre d'Ésaïe, ceux qui ont suivi nos études depuis le début, vous vous souvenez peut-être d'un message similaire dans le premier chapitre de ce livre d'Ésaïe, versets 11 jusqu'à 15, où Dieu dit « Mais qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» Pourtant, quoi de plus biblique à l'époque que d'apporter les sacrifices ? C'était au cœur du culte que Dieu demandait au peuple d'Israël. « Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Dans ces deux textes, donc, Dieu souligne autre chose, un autre aspect qu'il cherche chez ses disciples. Autre chose qui va donner le sens au culte biblique et sans lequel le culte, aussi biblique soit-il, n'a aucun sens. C'est la fidélité, non seulement dans le culte, ce qui fait une partie importante, mais la fidélité dans la vie de tous les jours. Si on retourne dans Amos chapitre 5, versets 14 et 15, il dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. » Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Et dans la suite de Ésaïe chapitre 1 également, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Si Dieu avait dit à son peuple qu'il ne supportait plus leur culte, pourtant biblique, c'était parce que, tout en voulant rester fidèle peut-être au rite du culte, il n'était plus fidèle dans la vie de tous les jours. Et Dieu disait, ce que je veux, c'est que le jour où on se rencontre, je puisse vous dire, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Non pas, tu as été infidèle et tu as cherché à couvrir ton infidélité par un culte biblique. Leur vie de tous les jours n'était pas biblique, même si leur culte l'était. En Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soyez fidèles dans mes commandements. Et alors, je vous dirai ce jour-là, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître. Si donc nous voulons être des disciples, ce qui est obligatoire, pour recevoir le salut le jour où le Seigneur reviendra, il faut que nous apprenions à être fidèles en toutes choses. Pas uniquement le week-end, le temps du culte, mais à être fidèle dans notre vie de tous les jours. À être fidèle à ce que Dieu dit vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de notre patron, vis-à-vis des gens autour de nous. Fidèle à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Tout comme le serviteur, justement, dans Ésaïe chapitre 50, verset 5, qui avait dit, « Je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai fait ce que j'ai entendu de la part de mon Seigneur. » Laissons donc la parole de Dieu nous encourager dans ce sens à être des disciples, des serviteurs fidèles. Alors en même temps, heureusement pour nous tous, la repentance existe lorsque la parole de Dieu nous révèle que nous n'avons pas été à la hauteur. Justement, dans ce passage d'Ésaïe, chapitre 1er, après ce que je viens de lire, versets 18 et 19, l'Éternel dit « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, Jean écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Si Dieu nous souligne l'importance d'être des disciples fidèles, c'est pour que nous ne péchions point. J'en dis, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons donc cette possibilité, si nous n'avons pas été fidèles aux voies de Dieu, de nous en repentir, de venir à lui en disant, Seigneur, j'entends ce que tu me dis. J'entends que ce que tu attends de moi, c'est la fidélité. J'entends lorsque tu dis que la seule chose qu'on peut demander à des serviteurs, c'est d'être trouvé fidèle. Pardonne-moi de ne pas l'avoir été et aide-moi à le devenir. Car effectivement, dans la suite de ce passage, après avoir parlé de Jésus-Christ, notre sacrifice pour notre péché, Jean continue. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Sa manière de marcher, c'était de dire « J'ai entendu ce qu'il m'a dit, j'ai écouté comme écoutent des disciples, je ne me suis pas retiré, je ne me suis pas parti en arrière. Mais j'ai fait fidèlement ce qu'il a dit. Et pour celui qui est fidèle, la récompense, c'est d'entendre son maître dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Entre donc dans la joie de ton maître. » Nous ne savons pas quel jour le Seigneur proclamera ses paroles. Donc, comme dit la Bible, veillons sur nous-mêmes afin d'entendre ces paroles-là ce jour-là.